Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, en cette solennité du Sacré-Cœur de Jésus, nous allons chercher à mieux pénétrer toutes les merveilles que le Sacré-Cœur fait en nous par les sacrements. La première chose, c'est dans le catéchisme, les sacrements ont été institués par Dieu pour produire ou augmenter la grâce dans nos âmes. Produire ou augmenter la grâce dans nos âmes. Cela est de foi. Quand on dit c'est de foi, cela veut dire que c'est une vérité révélée par Dieu que nous devons croire parce que c'est lui qui nous l'a enseigné, que nous ne et sans laquelle nous n'avons pas la foi. Donc les sacrements produisent la grâce. Puisque c'est une vérité de foi, alors pourquoi étudier, faire de la théologie? N'y a-t-il pas le risque de vouloir justifier Dieu, expliquer Dieu avec nos notions humaines, de manière à nous approprier cette vérité et ne plus avoir besoin de la révélation, parce qu'on aurait tout compris? Non. Si nous étudions avec saint Thomas ces vérités révélées, c'est pour que vous les compreniez bien et que vous n'alliez pas matérialiser le sacrement et la grâce. Le sacrement de baptême, par exemple, ne purifie pas l'âme comme la lessive lave le linge. Et d'ailleurs, la grâce dans l'âme n'est pas vraiment comparable à la blancheur du linge. Pour bien comprendre, je crois qu'il faut rappeler ce qu'est la grâce. Saint Pierre en donne une définition dans une épître. Elle nous rend participants de la nature divine. Et le catéchisme précise, elle fait de nous des temples vivants du Saint-Esprit. La conséquence, c'est qu'elle nous donne une ressemblance à Dieu. Mais il y a beaucoup de ressemblances. Par exemple, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais ce n'est pas de cette image dont il s'agit, ni de cette ressemblance. Et si la grâce ne faisait qu'ajouter une ressemblance de plus, elle ne serait qu'un ornement de plus dans notre âme, et ce ne serait pas véritablement, ça serait plus beau que ce que nous avons déjà, plus beau que les dons que nous avons déjà, mais tout don qui nous est fait est un don qui nous est adapté. Lorsque vous faites un don à quelqu'un, nécessairement, le don est à son niveau. Tandis que là, il s'agit de beaucoup plus que cela. Ce qui est le plus important dans la grâce, ce n'est pas ce qu'elle met dans l'âme, mais qu'elle ordonne l'âme. Elle tourne l'âme vers Dieu et la met en capacité d'entrer dans le sein de Dieu. Et comme le dit l'Écriture sainte, saint Pierre ou saint Jean, je ne sais plus, excusez-moi, dans la sainte communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Seigneur le dit dans l'Évangile, « Comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Comme, demeurez dans mon amour. » Demeurez dans mon amour et non pas conserver l'amour que je vous ai donné. C'est-à-dire, je vous ai élevé à l'amour que j'ai pour le Père. Non pas à un amour semblable, mais à l'amour que j'ai pour le Père. Je vous y ai élevé, demeurez dans mon amour. Dans l'Évangile de saint Jean, chapitre 14, Celui qui m'aime observera mes commandements. Bon, ça c'est une évidence. Et alors mon Père l'aimera en retour, et nous viendrons en lui, et non pas à lui, en lui, et nous ferons en lui notre demeure. C'est-à-dire que saint Thomas, dès le début de la somme, au tout début, de manière à ce que, à bien nous orienter vers cette vérité si essentielle pour nous, nous dit, ne confondez pas la présence de Dieu dans l'âme par la grâce avec la présence de Dieu dans le monde par les suites de la création. Dans les suites de la création, Dieu tient le monde et donc nous-mêmes, nous tous, dans sa main, comme un maître tient un serviteur ou un esclave. Par la grâce, il est présent en nous comme un ami connu et aimé. C'est très important ce que je vous dis là, et notamment, par exemple, quand vous expliquez, vous faites découvrir Dieu à un enfant. Par exemple, à la communion privée, la première communion. Quand on lui fait découvrir la merveille de Dieu. Il ne faut pas se contenter de lui dire que son âme va être toute belle, toute pure, et de même après les confessions. Et ça, c'est valable pas seulement pour les enfants. Après la confession, il ne faut pas se contenter de dire « Mon âme est toute belle, toute pure, toute rayonnante », parce que cela, c'est se regarder soi-même encore. Il faut se dire « Mon âme qui, par le péché, n'était plus transparente à regarder et aimer Dieu, est de nouveau tournée vers Dieu. » De nouveau, elle entre dans la sainte communion du Père et du Fils. De nouveau, ou si c'est pas de nouveau, si il n'y avait pas péché grave, c'est elle est désormais tournée encore mieux, avec plus de profondeur vers Dieu. Il était important de rappeler cela pour que vous compreniez bien ce que fait le sacrement. Vous comprenez qu'une œuvre comme celle-ci suppose que le sacrement soit quelque chose de tout à fait particulier. Saint Thomas pose donc maintenant la question, et c'est la deuxième partie de ce sermon, comment alors les sacrements produisent-ils cet effet merveilleux dont nous venons de parler? Et il répond, comme un instrument dans les mains de Dieu. Comme un instrument dans les mains de Dieu. Ah ! Nous ne reviendrons pas sur la pourquoi Dieu a pris ces instruments, nous l'avons dit, dans la nécessité des sacrements. C'est une question d'humilité, une question de s'adapter à notre condition humaine. Qu'est-ce qu'un instrument, alors? Un instrument est tenu dans les mains d'un agent principal, celui qui agit, dans les mains d'un artiste, si vous voulez, d'un artisan, enfin, prenez-le comme vous voulez. Et l'agent principal, l'artiste qui agit, c'est Dieu. C'est donc Dieu qui est la cause de la grâce dans nos âmes. Et c'est évident, parce que transformer une âme, la faire entrer dans le sein de Dieu, la faire entrer dans l'amour que le Fils a pour le Père, et que le Père et le Fils ont l'un pour l'autre dans le Saint-Esprit, c'est une œuvre qui va beaucoup plus loin que la création. Et par conséquent, c'est une œuvre divine. Et saint Thomas nous dira plus tard qu'une telle œuvre ne peut même pas, une telle puissance, voyez, ne peut même pas être déléguée à des hommes. Aucun homme ne peut directement sanctifier une âme. Il peut poser les actes par lesquels Dieu sanctifie l'âme, et c'est ce que fait le ministre du sacrement lorsqu'il pose le sacrement. Il peut préparer l'âme, il peut tout ce qu'on veut, mais il ne veut pas la sanctifier. Donc l'agent principal, c'est Dieu. Et après cela, vous avez les instruments. Et je ne sais plus si je vous en ai déjà dit un mot, mais peu importe. Vous avez deux types d'instruments. Tout d'abord l'instrument conjoint, par exemple la main de l'artisan, et puis l'instrument extérieur, par exemple la scie, ou le marteau, ou le rabot. Et saint Thomas continue en disant que la passion de Jésus-Christ est l'instrument conjoint de Jésus-Christ dans son humanité, et le sacrement est l'instrument extérieur manipulé par Dieu pour toucher nos âmes. Par le sacrement, nous sommes donc physiquement saisis par le Christ à travers la passion. Donc le signe sacramentel nous saisit, la passion qui est encore humaine, c'est la passion humaine du Fils de Dieu, nous tourne, saisit l'âme, agit de l'intérieur, nous transforme de l'intérieur pour arriver jusqu'au bout, le résultat, qui est de nous mettre en la possession de Dieu. Nous sommes donc comme modelés. Nous sommes modelés. Vous voyez que pour atteindre son but, la terre glaise soit modelée. Mais mon exemple est peut-être pas le meilleur qui soit, car la terre glaise aura une ressemblance une fois modelée. Elle aura une ressemblance avec son artiste. J'ai déjà constaté ça plusieurs fois, que des œuvres d'art ressemblent physiquement à l'artiste. Je ne sais pas si c'est fréquent et j'ai pas l'explication, mais je l'ai constaté un peu. Mais il s'agit de beaucoup plus que cela, puisque je vous ai dit que la grâce ne faisait pas que de nous donner une ressemblance supplémentaire, elle nous tourne vers Dieu et nous fait entrer dans la sainte société de Dieu. Et donc nous sommes modelés, nous sommes préparés, la matière est disposée par les sacrements pour être saisis par Dieu. Il faut que je vous dise un mot sur la grâce sacramentelle. Saint Thomas pose la question, pourquoi, en gros c'est cela, pourquoi y a-t-il 7 sacrements s'il y a une seule grâce ? Alors il pose la question, est-ce que cela fait 7 grâces ? Ou bien alors, est-ce qu'il y a 7 effets du sacrement ? Mais alors s'il y a 7 effets du sacrement, cela veut dire que le sacrement n'est pas directement tourné à produire la grâce, mais à produire un effet propre. Alors il dit non, c'est bien toujours la même grâce, mais selon une modalité différente, c'est-à-dire adapté sous un aspect différent. Un petit peu lorsque la main montre une direction du doigt, lorsque la main fait un signe, lorsque la main saisit, vous avez le poing fermé, vous avez la main ouverte, c'est toujours la même main. Et c'est toujours la main qui parle, enfin l'homme qui parle à travers sa main. Mais il s'adapte à celui auquel il s'adresse. Et donc, chaque sacrement va modeler la grâce, lui donner un mode, de manière à l'adapter, alors tout d'abord, aux âges de notre vie. On ne donne pas la vie à un enfant, comme Dieu ne la donne pas à un enfant, comme il la donne à un adulte ou à un vieillard, ou à un mourant. Eh bien, Dieu donne la grâce à un enfant pour le baptême, puis après ça, il le fait grandir par la confirmation, il le nourrit par l'Eucharistie, il le guérit par le sacrement de pénitence, et il le prépare à l'entrée dans la vie éternelle par l'extrême onction. Je vous ai dit, il le fait grandir, c'est le sacrement de la confirmation. Et vous avez les cinq sacrements qui nous perfectionnent. Et puis les deux sacrements qui modèlent toujours la grâce, mais qui, cette fois-ci, ont une fonction plus sociale, c'est-à-dire qui ne concernent pas que nous, le sacrement de l'ordre, bien entendu, pour donner les sacrements, et en tout premier l'Eucharistie, puisque nous verrons que tous les sacrements sont tournés vers l'Eucharistie, elle-même tournée vers la Passion, elle-même tournée vers Dieu. Les prêtres, donc, qui donnent les sacrements au peuple, et puis les époux qui préparent les enfants, leur progéniture, à entrer dans la vie de Dieu. Et donc cela fait les sept sacrements. Et on appelle grâce sacramentelle cette orientation de la grâce sanctifiante en fonction de nos conditions. La grâce sacramentelle ajoute en plus une sorte d'engagement de Dieu, un droit que nous avons de faire appel à Dieu pour recevoir toute l'aide dont nous avons besoin afin de parvenir au but, afin d'accomplir cette perfection qu'il met en nous. La grâce sacramentelle rajoute cela, si vous voulez, un engagement de Dieu. Pour la suite, des époux qui sont mariés, non seulement leur grâce sanctifiante a été développée par Dieu, parce que des époux, ça n'est pas rien, ils entrent plus profondément dans le cœur de Dieu, puisqu'ils doivent faire entrer les enfants, puisque Dieu les prend comme collaborateurs, ils entrent plus profondément dans le cœur de Dieu, donc la grâce sanctifiante est développée en eux. En plus, elle reçoit une nouvelle modalité, c'est-à-dire qu'elle est adaptée à leur fonction d'éducateur, de sanctificateur. Et en plus, en leur donnant la grâce sous cette forme-là, Dieu s'engage à les mener jusqu'au bout et à les aider à mener leur œuvre à la perfection. C'est pour ça que un échec en éducation, on doit toujours commencer par se poser la question « Moi, le père, moi, la mère, ne suis-je pas le premier responsable ?» Oui, les enfants ont leur liberté et ils peuvent en abuser. Mais avant de rejeter la faute sur les enfants, il faut nous poser la question « Ai-je été ce que Dieu attendait de moi ?» Et dans les circonstances actuelles qui sont terribles, pour l'éducation des enfants, la société est absolument terrible. Puisque nous sommes à la fête du Sacré-Cœur, de nous dire que les épreuves sont nécessairement permises par Dieu pour une plus grande sanctification, comme le martyr. Nous n'en sommes pas là, mais nous sommes déjà à une sorte de martyr social. Et il faut nous dire, si nous sommes éducateurs, comment dois-je m'adapter? Comment le bon Dieu me demande-t-il de m'adapter, puisque lui-même s'adapte à moi? Comment me demande-t-il de m'adapter à la situation présente pour que malgré tout son œuvre réussisse? Pour que malgré tout les enfants dont j'ai la charge l'aiment profondément? Et cela est possible. Bien sûr, il y aura des pertes. C'est ainsi, c'est le péché. Mais ces pertes devraient être beaucoup plus rares qu'elles ne le sont. L'état de notre jeunesse est certainement non seulement le signe de la malice de notre époque, mais également le signe d'un découragement, je pense, d'un abandon de poste de la part des éducateurs, pas seulement les parents, bien sûr, mais également les prêtres et, hélas, la hiérarchie ecclésiastique. Mais c'est une autre affaire. Nous conclurons ce sermon en rappelant, si vous voulez, même nous résumerons ce sermon en rappelant que la bonté du Seigneur ne consiste pas à nous aimer tels que nous sommes, mais à nous donner de l'aimer tel qu'il est. Méditez bien sur cela parce que, hélas, notre tour d'esprit trop humain a tendance à fausser la dévotion au Sacré-Cœur. La dévotion moderne, c'est une dévotion toute personnaliste. Jésus même. Autrefois, c'était plus une dévotion de miséricorde. Jésus a pitié de moi. Également, et ça c'est plus noble, Jésus me demande de souffrir avec lui et de partager ses souffrances. Mais la vraie dévotion au Sacré-Cœur, Jésus, faites que je vous aime comme vous-même aimez le Père et donnez-moi l'amour que le Père a pour vous dans le Saint-Esprit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.